Et avec toi, Daniel, ce soir dans La Rose des Vents, on parle de dispositifs d'éducation.
Absolument. L'accès à l'école et aux études supérieures sur les chemins de la migration continue de nous interroger et reste un luxe pour nombre de jeunes réfugiés. Nous aurons la chance d'entendre très bientôt Marion Fert, qui a été invitée par Alliance Sud InfoDoc pour un cycle de conférences qui sillonne la Suisse en 2018.
C'était il y a quelques jours, effectivement, le 31 mai. On aborde tout ça dans La Rose des Vents dans une vingtaine de minutes.
Radio Django, La Rose des Vents.
Et ce soir dans La Rose des Vents, nous parlons d'éducation et plus précisément des dispositifs éducatifs de secours mis en place dans les camps de réfugiés congolais en Tanzanie et au Rwanda. Un sujet d'Alliance Sud InfoDoc qui a choisi de mettre en exergue dans le cadre d'un cycle de conférences, de projections et d'expositions, un cycle organisé à Lausanne et à Berne en 2018 autour des migrations et des différences. C'est avec toi Daniel qu'on en parle ce soir, l'occasion d'aborder sur un sujet souvent oublié, voire même un peu médiatisé.
En effet, Fabien, des millions d'enfants réfugiés ne vont pas à l'école. D'après un rapport du HCR, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, publié en 2017, plus de 3,5 millions d'enfants réfugiés entre 5 ans et 17 ans n'ont pas pu aller à l'école en 2007. Si 91% des enfants vont à l'école primaire dans le monde, le chiffre tombe à seulement 61% pour les jeunes réfugiés. Au secondaire, on passe de 84% d'adolescents scolarisés dans le monde à 23% pour les réfugiés. Pour ce qui est de l'éducation post-secondaire, les chiffres montrent une situation critique. Seuls 1% des jeunes réfugiés poursuivent des études post-secondaires grâce à des bourses et d'autres programmes contre 36% dans le monde.
Ouais, donc on le constate, hein, les objectifs sont loin d'être atteints, donc des objectifs de développement durable pour 2030 qui sont promus par la communauté internationale, dont celui d'assurer à tous une éducation de qualité.
Tout à fait, Fabien. On est aujourd'hui dans un contexte qui favorise dans les camps de réfugiés l'éclosion de dispositifs éducatifs pour pallier justement à l'absence de scolarisation des jeunes et des enfants.
Et pour en parler ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Marion Fert. Bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue sur Radio Django. Vous êtes assistante doctorante à l'Institut d'ethnologie de Neuchâtel. Vous êtes également chercheuse et l'accès à l'éducation vous interpelle, notamment en contexte de migration. Vous avez, dans le cadre de votre master, présenté un mémoire sur l'accès à l'enseignement supérieur pour les réfugiés congolais au Rwanda. Et puis, jeudi passé, vous étiez invitée par Alliance Sud InfoDoc, où vous donniez, avec un autre chercheur, Andreas van Kennel, une conférence sur le thème « Quelle école dans les camps de réfugiés ?» Marion Fert, quels sont les principaux acteurs qui tentent de répondre à cette crise de l'éducation dans les zones de conflit ?
Dans les camps de réfugiés, les écoles, qui doivent être pensées comme des dispositifs habités et négociés, sont investies par une grande variété d'acteurs. Je pense notamment aux organisations onusiennes, aux organisations internationales, aux ONG, aux acteurs étatiques également, aux réfugiés eux-mêmes, et voire dans certains cas, par exemple, dans la région du Kivu qui m'a intéressée, les écoles peuvent également être investies par des paramilitaires. Évidemment, tous ces acteurs n'occupent pas le même rôle au sein de ces espaces. Leur implication, leur impact va fortement varier. Et puis, ce qui peut être intéressant d'être souligné, c'est que le HCR, donc comme vous l'avez dit, le Haut Commissariat des Réfugiés, est à l'échelle mondiale le seul acteur qui coordonne la mise en place de ces écoles. Et ensuite, à une échelle locale, les ONG, ses partenaires locaux, seront impliqués dans la mise en place et la gouvernance de ces écoles.
Mais Marion, suivant quelle modalité finalement s'inscrivent ces écoles dans les camps de réfugiés ?
Alors, les modalités de mise en place de ces écoles dans les camps de réfugiés peuvent à nouveau extrêmement varier, étant donné que dans les camps de réfugiés, il y a aussi plusieurs types d'écoles. En tout cas, dans le cas du Rwanda, le HCR a identifié trois types d'écoles au sein desquelles les enfants peuvent être scolarisés. Il s'agit donc, premièrement, d'écoles qui sont financées et coordonnées par le HCR, donc qui se trouvent au sein des camps. On peut également, les enfants peuvent également être scolarisés au sein d'écoles nationales rwandaises qui se trouvent aux abords des camps. D'accord. Et puis, il existe également des écoles dites communautaires qui sont entièrement financées, autogérées par des réfugiés au sein des camps. Donc évidemment, là, les modalités de mise en place varient fortement selon ces trois types, disons, d'écoles.
À quels besoins répondent ces écoles ? Et finalement, quel est l'objectif du HCR, considérant que c'est la principale entité internationale qui souhaite développer un système qui réponde à ces enfants qui sont dans des camps de manière ponctuelle, voire qui s'étendent dans le temps ? On parle de déplacements forcés et prolongés.
Au sein des politiques onusiennes et pour la communauté internationale, l'éducation elle est perçue comme nécessaire au développement social et personnel des enfants, notamment en vue de la pérennisation des camps de réfugiés. Les besoins auxquels ces écoles répondent diffèrent en fonction des différents acteurs qui sont impliqués dans ces écoles. Par exemple, pour les acteurs humanitaires institutionnels, donc les acteurs du développement, l'éducation a pour rôle fondamental la protection psychologique, psychique et physique des enfants. Pour les réfugiés, je pense notamment aux maîtresses et aux maîtres de ces écoles, qui sont donc, en tout cas au Rwanda, à 99% des réfugiés, l'éducation et ces écoles peuvent être également des lieux où se transmettent une histoire collective de l'exil et de permettre la transmission de l'histoire du Congo. Donc ça dépendra à nouveau de quel acteur on parle.
Mais je vous posais cette question parce qu'en lisant un petit peu de littérature sur le sujet, on a quand même le sentiment que c'est dans ces espaces d'exception que sont les camps de réfugiés, il y a une volonté de vouloir globaliser l'éducation et d'insuffler un modèle occidental. Quel regard portez-vous sur cette dimension au regard de votre expérience justement au Rwanda dans les camps de réfugiés ?
Alors, je pense qu'il est tout à fait approprié de parler d'une globalisation de l'éducation à l'échelle mondiale. Par contre, concernant une hégémonie occidentale ou une hégémonie globale, je pense qu'il faut prendre ce genre de représentation avec des pincettes, étant donné que l'un des avantages des analyses micro-sociologiques et des études de cas, c'est justement de pouvoir dire que la réalité sur le terrain elle est plus nuancée. Elle permet d'affiner ce genre de représentation de préjugés et de préconçus, notamment lorsqu'on pense à l'articulation du local au global et vice-versa. Et je pense, par exemple, que, en tout cas, dans mon terrain, j'ai vraiment pu me rendre compte qu'à l'échelle locale, les acteurs se réapproprient, renégocient, traduisent, mettent en acte ces normes globales. Donc on aura forcément, au sein de chaque contexte, dans les différents camps, au sein de pays différents, une réappropriation de ces normes qui sera différée.
En parlant justement de ce cheminement du global au local, est-ce que vous pourriez nous expliquer en quelques mots ce que sont les pedagogical camps, s'il vous plaît ?
Alors les camps pédagogiques, pour traduire le terme en français, donc c'est un concept analytique qui permet de penser les espaces éducatifs dans les camps de réfugiés comme des arènes au sein desquelles tous les acteurs, la multitude d'acteurs qui est présente, projettent des idéaux et leur propre subjectivité. On retrouve une multiplicité d'autres rhétoriques et d'autres subjectivités politiques qui sont projetées, notamment de la part des directeurs des écoles qui sont des réfugiés, qui cherchent, eux, à politiser les camps, à politiser ces espaces éducatifs autour d'un discours national et nationalistique en vue d'un retour au Congo.
Il serait intéressant, Marion, de vous entendre pour rappeler aux auditeurs, vous avez séjourné au Rwanda pour réaliser votre travail de master centré justement sur l'expérience des étudiants et des étudiantes réfugiés qui était supporté donc par un programme de bourse, le DAFI et le HCR.
Le point de départ de mon travail a été de questionner comment est-ce qu'une intervention de type humanitaire et un déplacement de population prolongée et forcée peut susciter des transformations sociales, politiques et identitaires. En ayant passé quelques mois au Rwanda, je me suis rendu compte que même si dans l'imaginaire contemporain, les camps, les espaces éducatifs dans ces lieux sont souvent abordés sous un prisme victimaire, en m'intéressant justement à l'émergence d'une élite intellectuelle, je me suis rendu compte qu'une expérience de migration forcée peut justement être synonyme d'opportunité. Et donc, parmi les étudiants que j'ai rencontrés, nombreux ont été à me dire que s'ils n'avaient pas fui le Congo, ils n'auraient jamais bénéficié d'une éducation à un niveau supérieur. Ce qui rime pour eux avec, évidemment, un futur amélioré, un futur plus stable, l'accès à un statut social prestigieux, et puis la possibilité, grâce à une éducation supérieure, de pouvoir aussi venir en aide à leur famille, de pouvoir soutenir l'éducation de leurs frères et sœurs, et puis peut-être même de leur communauté au sens plus large.
Mais ce qui serait intéressant de préciser aussi, c'est que dans le cadre de ces camps, on a tendance à vouloir former une élite qui pourra travailler sur le développement local de la région, voire du pays d'origine, quand on peut y retourner. Et je finirai avec cette question, Marion. Finalement, en quoi est-ce que l'enseignement supérieur joue un rôle crucial, voire vital, même dans les camps de réfugiés, dans le développement socio-culturel et économique de ces pays ?
Répondre à la question si l'enseignement supérieur joue un rôle crucial ou vital ou non, je ne sais pas si je suis en mesure vraiment de répondre à cette question. Par contre, une chose qui est certaine, c'est que les jeunes diplômés sont aujourd'hui dans le monde pourvus de missions telles que celle de réduire la pauvreté, de devenir des citoyens responsables, de promouvoir la paix notamment.
Merci Marion Fert. On rappelle que vous êtes assistante doctorante à l'Institut d'ethnologie de Neuchâtel. On parlait avec vous, vous nous avez même éclairé sur ces questions d'éducation supérieure dans les camps de réfugiés de l'Afrique subsaharienne. Merci beaucoup, bonne soirée à vous.
Merci.
Et on retiendra donc, Daniel, que l'accès à l'éducation, notamment, reste un objectif phare du développement durable promu par la communauté internationale. Il n'existe pas de modèle standard et voire universel.
En effet, Fabien, à ce propos, pour reprendre une citation du travail de master de Marion Fert sur l'accès à l'enseignement supérieur pour les réfugiés congolais au Rwanda, un système éducatif est une réalité ni intangible ni universelle. Il reste une réalité socialement et historiquement construite qui doit s'ouvrir au regard des conditions sociales, culturelles, économiques et politiques, voire internationales, propres à chaque contexte.
Puis même si l'accès à l'école et aux études supérieures sur les chemins de la migration interroge et reste un luxe pour nombre de jeunes réfugiés, l'éducation reste un enjeu crucial pour cette jeunesse qui a soif d'apprendre et reste également synonyme de reconstruction. Merci beaucoup Daniel pour la préparation de ce sujet. Un sujet que vous pouvez retrouver sur notre site www.django.fm.